Chapitre 8. Il se faisait face dans le bureau particulier de Seldon, son antre de réflexion, comme il l'appelait. C'est là qu'il passait un nombre incalculable d'heures à tenter de démêler l'écheveau complexe des gouvernements trentorien et impérial. As-tu obtenu beaucoup d'indications sur les récents incidents techniques qu'ont connus nos services planétaires, Reich?
Oui. Mais vous savez, papa, notre planète est bien vieille, et ce qu'il faudrait, c'est virer tout le monde. Tout déterrer, tout remplacer, intégrer les derniers progrès informatiques avant de réinstaller la population, ou du moins la moitié de celle-ci. Trentor se porterait 1000 fois mieux avec seulement 20 milliards d'habitants.
Quels 20 milliards ? Demanda Seldon en souriant.
J'aimerais bien le savoir,
dit Reich sombrement.
Le problème, de toute façon, c'est qu'on ne peut pas refaire intégralement une planète, alors on est bien forcé de continuer à bricoler.
J'en ai peur, Reich. Mais il y a quand même certains points bizarres. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai quelques idées là-dessus. Il sortit de sa poche une petite sphère.
Qu'est-ce que c'est ?
Demanda Reich.
C'est une carte de Trentor, soigneusement programmée. S'il te plaît, Reich, débarrasse-moi ce bureau.
Seldon plaça la sphère à peu près au milieu du plan de travail, puis il posa la main sur un clavier intégré dans le bras de son fauteuil. D'une pression du pouce, il ferma un contact et l'éclairage de la pièce s'éteignit tandis que le bureau s'illuminait d'une douce lumière ivoire qui semblait avoir 1 centimètre d'épaisseur. La sphère s'aplatit pour recouvrir l'intégralité du plan de travail. La lumière décrut lentement par endroits, dessinant un motif. Au bout d'une trentaine de secondes, Reich s'exclama
« Mais, c'est une carte de Trentor ?»«
Bien sûr, je te l'ai dit. Mais tu ne trouveras pas ce genre d'article dans une galerie marchande du secteur. C'est un de ces bidules avec lesquels font joujou les militaires. Il représente Trentor sous la forme d'une sphère, mais une projection plane révélera de manière plus flagrante ce que je veux te montrer.
Et que voulez-vous me montrer, papa ?»«
Eh bien, depuis 1 an ou 2, nous avons eu des pannes. Comme tu l'as dit, cette planète est vieille et il faut s'attendre à des défaillances techniques. Mais celles-ci se multiplient. Et il semblerait presque toujours qu'elles soient dues à l'erreur humaine.
N'est-ce pas logique ?
Oui, bien sûr, dans certaines limites, car cela se vérifie même quand il s'agit de séismes.
Des séismes ? Sur Trentor ?
Trentor est une planète quasiment non sismique. Et c'est tant mieux, parce que mettre sous dôme une planète qui risque d'être sérieusement ébranlée plusieurs fois par an ne serait pas des plus pratiques. Ta mère dit que l'une des raisons pour laquelle Trentor est devenue capitale impériale, c'est qu'elle était géologiquement moribonde, c'est son expression peu flatteuse. Toutefois, moribonde ne veut pas dire morte. Il se produit, à l'occasion, des secousses mineures. 3 ces 2 dernières années.
Je n'étais pas au courant, papa.
Presque personne ne l'est. Le dôme n'est pas construit d'un seul bloc. Il est formé de plusieurs centaines de sections qui peuvent se soulever et s'incliner pour absorber les tensions et les compressions d'un séisme. Puisqu'un tremblement de terre ne dure qu'entre 1 dizaine de secondes et 1 minute, l'ouverture du dôme est si rapide que les trentoriens situés dessous ne s'en rendent même pas compte. Ils sentent plus la légère secousse et le discret tintement de la vaisselle que l'ouverture et la fermeture du dôme qui les surmontent, accompagnant l'infime intrusion de l'air extérieur, quel que soit l'état de la météo.
Tout est pour le mieux, donc ?
Théoriquement. Le système est piloté par ordinateur, bien sûr. Où qu'il se produise, le début d'un séisme déclenche la manœuvre de la section du dôme correspondante, de sorte qu'il s'ouvre juste avant que la secousse soit assez violente pour l'endommager.
Parfait, donc.
Sauf que, pour aucun des 3 séismes mineurs survenus ces 2 dernières années, les contrôles du dôme n'ont réagi. Le dôme ne s'est jamais ouvert. Et chaque fois, il a fallu effectuer des réparations. Cela a pris du temps. Cela a coûté de l'argent. Et le contrôle climatique s'en est trouvé affecté durant une période considérable.
Maintenant, Reich, quelle est la probabilité pour qu'un tel équipement ait connu une défaillance dans ces 3 cas ?
Faible ?
Extrêmement faible.
Inférieur à 1%.
On peut donc supposer que quelqu'un a trafiqué les contrôles avant le séisme. Cela dit, environ une fois par siècle, nous avons une fuite de magma, beaucoup plus délicate à contrôler, et je préfère ne pas songer aux résultats si on la décelait trop tard. Par chance, ça ne s'est pas encore produit, et l'événement reste improbable. Mais j'attire ton attention. Cette carte détaille la localisation des diverses défaillances qui nous ont empoisonné la vie ces deux dernières années, et qu'on peut, semble-t-il, imputer à l'erreur humaine, même si dans aucun des cas on n'a pu réellement en attribuer la responsabilité. C'est parce que chacun prend soin de protéger ses arrières? J'ai bien peur que tu aies raison. C'est un trait caractéristique de toute bureaucratie, et Trantor est la plus grande de toute l'histoire. Mais que penses-tu de la répartition de ces incidents? La carte s'était illuminée de petits points lumineux rouges, comme autant de pustules recouvrant l'ensemble de la surface de Trantor. « Eh bien ?» hasarda Reich prudemment. « Il semble réparti avec régularité ?»« Très juste. Et c'est cela qui est intéressant. » En toute logique, les sections les plus anciennes de Trantor, celles mises sous dôme depuis le plus longtemps, devraient avoir les infrastructures les plus détériorées, et donc connaître l'essentiel des incidents exigeant des décisions humaines rapides et donc susceptibles d'entraîner des erreurs. Je vais marquer en bleu les sections les plus anciennes de Trantor, et tu noteras aussitôt que les incidents ne semblent pas y survenir plus souvent. Et cela m'amène à conclure, Reich, que les pannes ne sont pas d'origine naturelle, mais ont été délibérément provoquées et réparties de telle manière qu'elles affectent le plus de gens possible, afin d'engendrer un mécontentement qui soit également le plus large possible. Ça ne me semble guère probable, non? Dans ce cas, regarde cette répartition des pannes, non plus dans l'espace cette fois, mais dans le temps. Zones bleues et points rouges disparurent. Et durant quelques secondes, la carte de Trantor redevint vierge, puis les marquages réapparurent un par un, successivement, ça et là. Remarque, dit Seldon, qu'ils ne sont pas regroupés dans le temps. Il en survient un, puis un autre encore, et ainsi de suite, presque avec une régularité de métronome. Vous pensez que c'est fait exprès, là aussi? Il faut bien. Je ne sais pas qui est derrière, mais il veut engendrer le maximum de perturbations avec le moins d'efforts possible, donc il évite d'en provoquer deux à la fois pour que le premier incident n'annule pas l'impact du second dans la conscience du public. Chacun doit se distinguer avec son maximum de potentiel d'irritation. La carte s'éteignit et la lumière revint. Seldon remit dans sa poche la sphère qui avait repris sa taille initiale. Qui aurait intérêt à faire une chose pareille? Demanda Reich. Seldon était pensif. Il y a quelques jours, j'ai reçu un rapport sur un meurtre commis dans le secteur de Cannes. Cela n'a rien d'inhabituel, même si Cannes n'est pas de ces secteurs où règne vraiment l'anarchie. Il doit s'y produire un bon nombre de meurtres chaque jour. Des centaines, confirma Seldon en hochant la tête. Nous avons connu une époque sombre où le chiffre quotidien des disparitions violentes sur l'ensemble de la planète avoisinait le million. En général, on n'a guère de chance de retrouver les coupables. Le mort devient un simple chiffre dans les statistiques. Celui-ci, toutefois, était particulier. On l'avait poignardé, mais maladroitement. Il avait encore un souffle de vie quand on l'a trouvé. Il eut juste le temps de souffler un mot avant de mourir. Et ce mot était « chef ». Cela suscita une certaine curiosité, et on est finalement parvenu à l'identifier. Il travaillait à Anemoria, et l'on ignore encore ce qu'il faisait à Cannes. Mais un policier de valeur a réussi à découvrir que c'était un ancien Joranumite. L'homme s'appelait Kaspal Kaspalov, et était bien connu pour avoir été l'un des intimes de Laskin Duranum. Et voilà qu'il est mort, poignardé. Reich fronça les sourcils. Soupçonnez-vous un nouveau complot de Joranumite, père? Ses partisans ont disparu. Il n'y a pas si longtemps. Ta mère m'a demandé si je pensais que les Joranumites étaient encore actifs, et je lui ai répondu que toute croyance, si bizarre soit-elle, conservait toujours un certain nombre de cellules, parfois plusieurs siècles. Ce sont en général de petits groupes dissidents peu actifs. Malgré tout, suppose que les Joranumites aient conservé une organisation d'un certain poids. Suppose qu'ils soient capables de tuer un des leurs parce qu'ils le considèrent comme un traître. Et suppose qu'ils déclenchent ces séries de pannes pour préparer une prise de pouvoir. Cela fait un sacré paquet de suppositions, papa.
Je le sais.
Et je peux me tromper complètement. Le meurtre a eu lieu à Cannes, et comme par hasard, il n'y a eu aucune panne d'infrastructure à Cannes. Qu'est-ce que cela prouve? Cela pourrait prouver que le centre du complot est à Cannes, et que les conjurés ne veulent pas se rendre la vie impossible, mais gêner le reste de Trentor. Cela pourrait aussi vouloir dire que les coupables ne sont pas du tout les Joranumites, mais des membres de l'ancienne famille de Cannes qui rêvent de diriger à nouveau l'Empire. Oh diantre, père, là vous poussez le bouchon un peu loin.
Je sais.
À présent, suppose qu'il s'agisse effectivement d'un nouveau complot Joranumite. Joranum avait pour bras droit Gamboldin Namarti. Nous n'avons aucune trace de la mort de Namarti, aucune trace de son éventuel départ de Trentor, pas le moindre indice sur son existence depuis plus de 10 ans. Ce n'est pas surprenant outre mesure. Après tout, il est facile de perdre la trace de quelqu'un parmi 40 milliards d'individus. À une certaine époque de ma vie, c'est précisément ce que j'ai cherché à faire. Bien sûr, Namarti est peut-être mort, ce serait l'explication la plus simple. Mais il peut aussi ne pas l'être. Que faire selon vous? Seldon soupira. La solution logique serait de s'adresser au service de la sûreté, mais je ne peux pas. Je n'ai pas la présence de Demerzel. Lui, il savait amadouer les gens, moi pas. Lui, il avait une forte personnalité. Moi, je ne suis qu'un simple mathématicien. Je ne devrais même pas être premier ministre, je ne suis pas fait pour ça. Et je ne l'aurais jamais été si l'empereur ne faisait pas cette fixation sur la psychohistoire, qui est bien loin de la mériter. Là, vous êtes en train de faire de l'autoflagellation, père, je me trompe? Non, je suppose que tu as raison. Mais je me vois mal me présenter à la sûreté, simplement muni de ce que je t'ai montré sur la carte, il tendit la main vers le bureau désormais vide, et prétendre que nous courons le risque imminent d'une terrible conspiration aux conséquences indéfinies. Il m'écouterait avec solennité, mais sitôt que j'aurai le dos tourné, il se ficherait du mathématicien cinglé et ne lèverait pas le petit doigt. Alors que comptez-vous faire? Répéta Reich, revenant au problème initial. C'est toi qui vas faire quelque chose, Reich. J'ai besoin de preuves supplémentaires et je veux que tu les découvres pour moi. J'aurais bien envoyé ta mère, mais elle ne voudra m'abandonner sous aucun prétexte. Moi-même, je ne peux quitter pour l'instant l'enceinte du palais. Après Dors et moi-même, tu es le premier en qui j'ai confiance. Plus même qu'en Dors ou moi-même. Tu es encore jeune, tu es vigoureux, tu es meilleur à l'esquive héliconienne que je ne l'ai jamais été, et tu es futé. Cela dit, attention, il n'est pas question que tu risques ta vie. Pas d'héroïsme, pas de vaine prouesse. Je ne pourrai plus regarder ta mère en face s'il t'arrivait quoi que ce soit. Tâche de faire de ton mieux. Tu découvriras peut-être que Namarti est vivant et actif, ou mort, que les Joranumites sont un groupe actif ou moribond, que la famille régnante de Cannes est en activité ou pas. L'une ou l'autre éventualité serait intéressante, mais pas vitale. Ce que je veux que tu découvres, c'est si les pannes des infrastructures sont d'origine humaine, comme je le pense. Et encore plus important dans cette hypothèse, quels sont les plans des conspirateurs? Il me semble qu'ils préparent un coup d'envergure, et je veux savoir lequel. Reich demanda, méfiant. Avez-vous une ligne d'action à me proposer?
Oui, tout à fait, Reich.
Je veux que tu ailles visiter la région de Cannes où Kaspalov s'est fait tuer. Tâche de savoir s'il était un Joranumite actif et essaie de t'inscrire dans une cellule Joranumite. Ce sera peut-être possible. Je peux toujours prétendre être un vieux Joranumite. C'est vrai que j'étais tout jeune quand Jojo était leur leader, mais ses idées m'impressionnaient beaucoup. En fait, ce ne serait pas faux.
Effectivement.
Mais il faut se méfier d'un piège. Tu risques d'être reconnu. Après tout, tu es le fils du premier ministre. On t'a vu de temps en temps à l'Eurovision. Et l'on t'a interviewé pour connaître tes opinions sur l'égalité des secteurs. Bien sûr, mais pas de mer, Reich. Tu porteras des chaussures à talonnettes pour gagner 3 cm et je vais charger quelqu'un de te montrer comment modifier le dessin de tes sourcils, de remplir un peu le visage, changer le timbre de ta voix. Reich haussa les sourcils. Bien du souci pour pas grand-chose. Et, poursuivit Seldon avec un distinct tremblement dans la voix, tu vas me raser cette moustache. Les yeux de Reich s'agrandirent et durant quelques instants il resta abasourdi. Enfin, il dit avec un soupir rauque, « Raser ma moustache ?»« Complètement. » »« Sans elle, plus personne ne te reconnaîtra. »« Mais c'est impossible, ce serait comme de me couper la... »« Comme une castration !» Seldon secoua la tête. « Simple curiosité culturelle. Amaril est un Dalit comme toi et il ne porte pas de moustache. »« Hugo est cinglé, je ne crois même pas qu'il soit vivant en dehors de ses mathématiques. » C'est un grand mathématicien, et l'absence de moustache n'y change rien. En outre, cela n'a rien d'une castration, ta moustache repoussera en 15 jours. 15 jours? Il m'a fallu 2 années pour parvenir à cette... Il leva la main comme pour couvrir et protéger cet attribut. Seldon était inexorable. Reich, tu n'as pas le choix. C'est un sacrifice qu'il te faut accomplir. Si tu dois être mon espion et que tu gardes ta moustache, tu pourrais avoir des problèmes. Je refuse de prendre ce risque.
J'aimerais encore mieux mourir,
s'écria Reich. Ne sois pas mélodramatique, fit Seldon sévère. Tu ne veux sûrement pas mourir, et tu dois faire ce que je te demande. Toutefois, et là il hésita.
N'en dis pas un mot à ta mère. Je m'en charge.
Reich dévisagea son père au comble de la frustration, puis enfin il répondit d'une voix basse et désespérée « Très bien, pa. » Seldon reprit. « Je vais te trouver quelqu'un pour superviser ta transformation, ensuite tu te rendras à Cannes par aérojet. »«
Allons, secoue-toi un peu, Reich. Ce n'est pas la fin du monde. »
Reich eut un pauvre sourire et Seldon le regarda partir, le visage profondément inquiet. Une moustache, ça repousse vite, mais pas un fils. Seldon savait parfaitement qu'il envoyait Reich au cœur du danger.